Chers auditeurs, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Le Monde de la philosophie. Je suis très heureux de vous retrouver, voilà, pour parler de philosophie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, je suis tout seul, je vais faire un cours en quelque sorte, ou en tout cas une méditation sur la philosophie de Bergson. Il me semble que c'est un auteur important, alors ça vous évoque sans doute un certain nombre de souvenirs, peut-être de classe de terminale, Bergson, voilà, qui est devenu un auteur classique, un auteur reconnu, mais comme tout classique, un auteur qui peut paraître un petit peu passé, ou voilà, qui peut avoir le charme du passé sans doute, mais on ne voit pas forcément ce que Bergson pourrait nous dire aujourd'hui, quelle pourrait être son actualité. Il faut, il me semble-t-il, d'abord se replacer dans le contexte historique dans lequel Bergson était, et notamment au début du XXe siècle, bien prendre conscience de l'immense notoriété, de l'immense gloire de Henri Bergson, qui, pur philosophe qu'il était, il faisait simplement des cours de philosophie au Collège de France, il écrivait des livres de philosophie, a vraiment acquis une notoriété impressionnante. Tout le monde, tout Paris parlait de lui, toutes les grandes dames allaient à son cours au Collège de France, tous les étudiants passionnés par son enseignement. Tout le monde en parlait dans la presse, on parlait de Bergson, on se querellait sur le sens de sa philosophie, tout le monde prenait parti, prenait position pour ou contre cette nouvelle philosophie qui était celle de Bergson. Donc c'était vraiment presque un enjeu de débat public, cette philosophie de Bergson. Et François Azouvi, dans un livre de 2002, me semble-t-il, qui s'appelle « La gloire de Bergson », retrace bien cette réception immédiate de l'œuvre de Bergson, et vraiment entre les années 1900 et 1914, Bergson était vraiment un des grands maîtres à penser de l'époque. L'époque s'est comme retrouvé en lui, ça a comme été le penseur à la mode, le penseur de l'époque, celui qui enfin donnait de quoi satisfaire les intelligences. Il y avait comme une rencontre entre cette époque, les années folles comme on les appelle, ou ce début du XXe siècle, et la philosophie de Bergson, une rencontre, et donc un public aussi tout à fait au rendez-vous. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, cette grande notoriété, cette grande célébrité de Bergson, cette gloire immense. François Azouvi, dans le livre dont j'ai parlé, dit que finalement c'est le premier intellectuel, c'est-à-dire le premier philosophe à avoir une portée immense, en fait, une grande portée, à être quelqu'un de tout à fait reconnu, à avoir un magistère philosophique, comme François Azouvi l'appelle. C'est le premier à avoir eu cette célébrité, à devenir vraiment une personnalité publique, comme Sartre le deviendra quelques décennies après. Mais à la grande différence de Sartre, Bergson, dit François Azouvi, ne doit sa gloire qu'à la philosophie. Il n'a pas écrit par ailleurs de pièces de théâtre, de romans ou même de textes politiques qui contribueraient à sa notoriété comme l'a fait Jean-Paul Sartre. Mais au contraire, Bergson, c'est une gloire purement philosophique. Et ça, il me semble que c'est assez intéressant. Donc j'aimerais retracer avec vous les raisons, les causes qui expliquent cette grande notoriété de Bergson, et essayer de comprendre, de méditer sur sa philosophie, voir aussi ce qu'elle peut nous enseigner, nous dire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'actualiser outre mesure, mais chacun, je pense, trouvera dans cette philosophie de quoi satisfaire l'une ou l'autre de ses curiosités, voire même de ses méditations, de ses réflexions philosophiques. L'enjeu est donc de vous introduire, chers auditeurs, à cette philosophie de Bergson, vous faire entrer dans cette grande pensée qui n'est pas seulement celle d'un classique de la philosophie, mais qui est celle d'un auteur vivant, d'un philosophe de la vie, on va le voir, philosophe du temps, philosophe de l'homme, qui a introduit une philosophie nouvelle, qui répondait sans doute aux aspirations de son temps, et qui, je crois, a encore beaucoup à nous dire, fût-ce en la modifiant, en l'interprétant, en la changeant. Une dernière chose qu'il me faut peut-être mentionner avant d'entrer dans le contenu, dans le fond de cette philosophie de Bergson, c'est sa relative renaissance à l'heure actuelle. Alors relative, évidemment, mais cela contraste avec un purgatoire assez fort dans lequel a été plongé Bergson après-guerre notamment. C'était donc le grand essor de l'existentialisme, de la phénoménologie venue d'Allemagne. Et Bergson a été un petit peu oublié, c'était celui justement que cette nouvelle philosophie dépassait. Et donc, on a perdu de vue un petit peu l'importance de son œuvre. Voilà, donc un purgatoire qui a duré assez longtemps, c'était devenu un auteur classique, mais qui dit classique dit finalement peu intéressant, et c'est pas là qu'on va chercher une nourriture pour transformer notre vie, pour notamment quand on est jeune, vraiment se donner la vie. Eh bien, Bergson n'a pas été tellement cette figure dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui contraste avec la manière dont il l'avait été dans la première moitié du XXe siècle, cette grande gloire surtout au début du siècle. Mais on observe un regain d'intérêt pour les études bergsoniennes tout de même dans les dernières décennies. Je pense à des auteurs comme Frédéric Worms de l'École normale supérieure de Paris, de la rue d'Ulm, ou encore Camille Riquier, professeur à l'Institut catholique de Paris. Qui ont chacun à leur manière travaillé sur Bergson, Worms plutôt lié à la vie, à la philosophie du soin également, et Camille Riquier plutôt dans l'ordre métaphysique, religieux. Voilà, deux penseurs assez importants, de Bergsoniens de notre époque, Frédéric Worms et Camille Riquier, voilà, qui nous montrent tout de même que Bergson continue à faire penser aujourd'hui. Alors, si maintenant nous rentrons un petit peu dans la philosophie d'Henri Bergson, il faut d'abord bien voir qu'elle procède de deux sources principales qui l'ont influencé, qui ont déterminé, si je puis dire, les contours de sa philosophie. La première, c'est la méthode expérimentale, ou la méthode positive, et la seconde source, c'est le contenu spiritualiste de sa philosophie. Donc la première chose, Bergson n'a cessé de se revendiquer de la méthode expérimentale. Il fait un jour un texte sur Claude Bernard, qui s'appelle La philosophie de Claude Bernard, où il dit que ce que nous devons, nous philosophes, à Claude Bernard, qui n'était pas d'abord philosophe, mais d'abord physiologiste, biologiste, ce que nous devons à Claude Bernard, c'est vraiment cette méthode expérimentale. Claude Bernard a écrit l'introduction à la méthode expérimentale. Nous devons à Claude Bernard cette attention aux faits, cet amour de la positivité, du fait concret, notamment ce qui implique un dialogue avec les sciences, puisque les faits sont la matière même des sciences, dit Bergson. Et donc avec cette attention aux faits, aussi cette grande exigence que reçoit Bergson de Claude Bernard, de ne pas de ne rien affirmer qui dépasse les données de l'expérience, qui dépasse les faits, qui dépasse ce qui est observable, ou du moins ce qui est dans le prolongement des faits observables. On peut éventuellement faire des hypothèses qui prolongent en quelque sorte la ligne observée dans l'ordre des faits, mais il faut se garder de dénoncer a priori, il faut se garder de grandes thèses qui ne seraient pas fondées dans l'expérience, qui n'auraient pas de rapport, d'une manière ou d'une autre, aux données de l'expérience, quelles qu'elles soient. Pour le coup, les données de l'expérience, elles, sont toujours normatives, sont toujours de la valeur, même si ce sont des données qui ont été peu prises en compte. On le verra pour les données religieuses, par exemple, pour un certain nombre de données psychologiques, voire psychiatriques, sur lesquelles Bergson se penche beaucoup en philosophe. Mais donc, on pourrait dire la maxime bergsonienne. Donc la maxime de sa méthode serait tout le donné, rien que le donné. Toute l'expérience, rien que l'expérience. Voilà. Et donc ça, ce qui implique aussi d'aborder la réalité sans idée, a priori, sans préjugés. Ça va être aussi un mot d'ordre de la méthode bergsonienne. Ne pas d'abord aborder la réalité, enfin ne pas recouvrir en fait la réalité d'un voile d'idées, d'un vêtement d'idées, d'un certain nombre de théories, de systèmes, de manière de penser préconçue, d'idées toutes faites. Ça, c'est une grande affirmation de Bergson. Ne préférer construire soi-même des idées qui soient adaptées à la réalité plutôt que de se contenter d'idées toutes faites. Et on sait que l'héritage de cette idée, c'est chez Charles Péguy. Charles Péguy ne cessera de rendre hommage à Bergson, notamment pour sa critique des idées toutes faites. Donc ça, c'est la première chose. D'abord, une méthode expérimentale, une méthode positive, attentive aux données, de l'expérience, aux données scientifiques, aux données, quelle qu'en soit la provenance, mais du moment qu'elles sont fondées, expérimentées selon la rigueur des méthodes scientifiques. La deuxième chose, c'est le contenu de la philosophie bergsonienne sera, pour parler généralement, un contenu spiritualiste. Le spiritualisme, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a été aussi largement oublié au XXe siècle. Le spiritualisme, c'est tout un courant de pensée en philosophie au XIXe siècle, qui s'oppose, comme son nom l'indique, de manière assez nette au matérialisme. Et le spiritualisme, c'est tout simplement l'affirmation qu'il y a des réalités spirituelles, qu'il y a plus que la simple matière, que les simples composants physico-chimiques, mais qu'il y a de l'esprit, quelle qu'en soit la nature, qu'il y a quelque chose de spirituel. Bergson hérite de ce spiritualisme, en particulier d'auteurs, là aussi un petit peu méconnus, mais importants au XIXe siècle, comme Boutroux. Émile Boutroux, comme Jules Lachelier, mais aussi comme Ravaisson, Félix Ravaisson, auquel Bergson consacre là aussi un petit essai, comme à Claude Bernard, un petit essai qui s'appelle La vie et l'œuvre de Ravaisson. Et dedans, il montre tout ce qu'il doit à Ravaisson, auteur de la fin du 19e siècle. Et notamment, c'est la grande idée de Ravaisson, c'est vraiment l'irréductibilité de l'esprit à la matière, le rôle de l'esprit dans la nature. Si on observe finalement la nature, on voit que la nature est animée et traversée par quelque chose de l'ordre de l'esprit et que la vie s'échelonne en quelque sorte en un certain nombre de degrés, mais qu'on sent une aspiration de chacun des règnes de la nature, donc l'inorganique, le vivant, l'animal, vers le niveau supérieur. Donc, au contraire du matérialisme qui, lui, expliquait toujours le supérieur par l'inférieur et donc réduisait sans cesse à l'inférieur, le spiritualisme observe dans la nature un élan, une poussée vers le supérieur. La vie désire former des formes supérieures, plus élaborées, plus complexes. Ouais, donc ça, Bergson le reçoit de Ravaisson. Ravaisson a aussi beaucoup médité sur Léonard de Vinci, donc Aristote, et Léonard de Vinci, et il observe notamment que chez Léonard de Vinci, le travail de l'artiste consiste vraiment à tâcher de retrouver l'âme, en quelque sorte, de ce qu'il peint. L'âme de l'objet qu'il peint, et en particulier, cela passe par un travail extrêmement poussé sur la ligne onduleuse, dit Bergson, en parlant de Ravaisson, qui parle lui-même de Léonard de Vinci, la ligne onduleuse, c'est-à-dire les contours, la forme, mais la forme au sens vraiment aristotélicien du terme, c'est-à-dire le principe d'organisation, le principe d'unité de la chose. Ou, autrement dit, l'âme de la chose, chez Aristote, l'âme est le principe de vie, le principe d'animation, le principe d'organisation du vivant. Et donc, Léonard de Vinci va tâcher de retrouver l'âme, invisible évidemment, mais qui est ce point invisible, cette matrice invisible qui organise le corps, qui explique la distribution des parties, l'ordre des parties du corps. Et donc ce que Léonard de Vinci fait comme en artiste, eh bien il s'agit de le faire également en philosophe, et par là se trouve réfuté, dit Ravaisson, que Bergson suit ici bien entendu, se trouve réfuté le mécanisme qui explique, lui, tout par des mouvements corporels qu'on peut déterminer, qu'on peut calculer quantitativement, mais pour lequel il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de mystère en quelque sorte de la vie, et il n'y a pas ce principe d'organisation. Voilà. Ça, c'est la double source bergsonienne, la méthode expérimentale et le contenu spiritualiste. Ce qui est très, très novateur, c'est justement la jonction de ces deux influences. C'est ça qui va faire le propre, les contours de la philosophie bergsonienne, et la manière propre qu'il a de philosopher. C'est que généralement, adopter la méthode expérimentale, la méthode positive, conduisait à un contenu, à un fond lui-même matérialiste, positif, qui ne dépassant pas l'expérience, niait ce qui dépasse l'expérience, et en particulier ce qui dépasse l'expérience mécanique telle que les sciences physico-chimiques peuvent l'étudier. Au contraire, ce que fait Bergson, c'est qu'il reste sur ce terrain positif, il reste sur ce terrain de la méthode expérimentale, il reste sur ce terrain des faits, mais il va le dépasser en quelque sorte sur son propre terrain. Il va dépasser le positivisme en étant en quelque sorte plus positiviste que le positiviste et en montrant que, à même les faits, se dégage l'idée d'une spiritualité, l'idée en tout cas d'un au-delà de la matière, d'un au-delà du positif au sens purement expérimental et réducteur du terme. Donc Bergson va en quelque sorte doubler les positivistes sur leur propre terrain et montrer qu'il y a une réalité spirituelle et que cela est observable. Cela n'est pas juste un préjugé, un jugement a priori, une affirmation gratuite, arbitraire, ou éventuellement traditionnelle, mais qui ne se fonderait pas sur les faits, mais au contraire, ce contenu spiritualiste peut être mis au jour par les données de l'expérience, donc par la méthode expérimentale. Cette jonction, donc, est le propre de la philosophie de Bergson. Si nous rentrons maintenant un petit peu dans le contenu de ses œuvres, le déroulé de ses œuvres, il y a quatre grands livres de Bergson. L'essai sur les données immédiates de la conscience en 1889, Matière et mémoire en 1896, L'évolution créatrice en 1907 et Les deux sources de la morale et de la religion en 1932. Donc on observe que ces quatre œuvres s'étendent sur un temps assez conséquent, plus de 40 ans. Bergson ne s'est jamais pressé pour faire un livre, et il est extrêmement minutieux, extrêmement rigoureux, et il a toujours voulu, comme on vient de le dire, selon les réquisites de la méthode expérimentale, il n'a jamais voulu aller trop vite, dépasser les données de l'expérience et affirmer de manière précipitée sans que l'affirmation soit réellement fondée, prouvée, démontrée. Et donc il prend son temps, voilà, pour écrire ses livres. Il a cette phrase, je crois, assez géniale. On n'est jamais tenu de faire un livre. C'est-à-dire que c'est pas parce que les autres nous pressent de donner notre avis sur quelque chose qu'il faut absolument écrire, publier. Non, il faut, dit Bergson, au contraire, travailler minutieusement, lentement, péniblement, parce que la vérité est difficile à connaître. Mais au bout du compte, on aura quelque chose qui sera strictement expérimental, démontré, solide, vraiment philosophique, et qui ne s'évanouira pas trop rapidement. Voilà, donc ça c'est la méthode de Bergson. Donc en 1889, il publie l'essai sur les données immédiates de la conscience, qui est sa thèse de doctorat, qui n'est pas une thèse telle qu'on les connaît aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune note de bas de page. C'est très bien écrit, et puis c'est de la vraie philosophie, c'est-à-dire c'est pas une étude sur un auteur, c'est pas de l'histoire de la philosophie, c'est vraiment de la philosophie. Comme son nom l'indique, donc l'essai sur les données immédiates de la conscience, on voit évidemment déjà la méthode expérimentale à l'œuvre, puisqu'il s'agit de travailler sur les données de la conscience, les données immédiates, telles qu'elles se donnent radicalement à la conscience, sans que nous plaquions dessus déjà des hypothèses d'interprétation, sans que nous y ajoutions de notre propre fond, mais au contraire, il s'agit d'étudier les faits de conscience, les faits intérieurs, tels qu'ils se révèlent de la manière la plus immédiate possible, sans intercaler trop d'hypothèses, trop de théories qui finalement les déformeraient. Le problème dont part Bergson dans l'essai de 1889, c'est un problème de psychologie qui peut paraître assez restreint, mais à partir duquel en fait il va remonter jusqu'à une source spiritualiste pardon, et réfuter le mécanisme. Ce problème psychologique très déterminé duquel il part, c'est le problème de l'intensité des sensations. Nous pouvons avoir des sensations plus ou moins fortes, nous pouvons avoir un peu mal ou très mal, nous pouvons avoir un peu de plaisir ou beaucoup de plaisir, nous pouvons ressentir une chose fortement ou au contraire moins fortement. Donc nous parlons communément de nos sensations en les traduisant dans des ordres de grandeur. Certes, nous ne pouvons pas les quantifier absolument en leur attribuant un nombre, un chiffre, mais nous en parlons quand même selon un ordre de grandeur, donc selon un certain ordre de quantité. Spontanément, nous traduisons donc les qualités de nos sensations, plus ou moins fortes, nous les traduisons en quantité. C'est ce passage de la quantité, de la qualité, pardon, à la quantité que Bergson va étudier et qu'il va finalement critiquer. En fait, dit Bergson, lorsque nous avons une sensation plus forte, lorsque notre sensation s'affermit, s'accroît, eh bien, il ne s'agit pas du tout d'un accroissement quantitatif, mais il s'agit, dit-il, lorsque par exemple j'ai davantage mal ou que je suis davantage triste, il s'agit non pas de l'addition d'une unité, il s'agit non pas d'un accroissement quantitatif, il s'agit finalement, dit-il, d'une nuance, d'une coloration nouvelle qui va affecter en fait toute ma sensation, qui va affecter toute mon émotion. Ça vaut aussi pour les émotions. Donc c'est pas j'ajoute à ma sensation préexistante une unité qui la fait varier en l'augmentant ou si je la retire en la diminuant, mais on pourrait dire chaque nouvel apport émotionnel ou sensoriel modifie le tout de ma sensation, le tout de mon émotion. La partie ne va pas s'ajouter au tout pour former un nouveau tout, mais au contraire, la partie, lorsqu'elle frappe en quelque sorte le tout, va modifier le sens global de ce tout, va modifier, dit Bergson, en utilisant des métaphores, mais va modifier la couleur générale de cette sensation ou cette émotion. Finalement, ce qu'on ajoute va modifier le tout, va pas laisser le tout inchangé et simplement s'y ajouter en s'y juxtaposant, mais au contraire va le modifier intégralement. Lorsque j'ai davantage mal, lorsque ma douleur s'accroît, en fait ce n'est pas la même douleur, mais un peu plus, c'est une autre douleur, c'est une autre qualité de douleur, une autre intensité de douleur, une autre couleur, une autre nuance de douleur, qui sera sans doute proche, pour ça qu'on va la nommer de la même manière, mais qui en elle-même est irréductible et unique en son genre, qui n'est pas strictement identique à une autre, mais a vraiment toute son originalité. Donc ça, c'est une thèse importante de Bergson. Derrière, ce qu'il veut montrer, c'est que les faits intérieurs, les données de notre conscience, sont à chaque fois irréductibles, sont à chaque fois originales. Certes, nous les comparons à l'aide de nos mots, mais nous ne les comparons qu'en retenant ce qu'elles ont de commun, et en fait, c'est-à-dire bien peu de choses, parce que ce qui fait vraiment leur fond est quelque chose d'absolument unique et donc d'incomparable. Chaque fait intérieur, chaque douleur, par exemple, chaque tristesse, chaque joie, a sa couleur propre, son originalité propre, qu'il s'agit de respecter absolument sa qualité propre. Et donc, ce faisant, Bergson conclut à l'irréductibilité de la qualité à la quantité. La qualité ne peut pas se traduire en quantité sans se perdre, parce que la quantité, elle, va homogénéiser, va comparer, alors que la qualité, elle, au contraire, est irréductible et incomparable. Et donc, dès que nous traduisons la qualité en quantité, en fait, nous perdons ce qui fait l'originalité, le propre de la sensation ou de l'émotion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Ce qu'il va encore montrer, c'est que finalement, ces impressions de notre conscience, nous les méconnaissons généralement parce que nous, au lieu de les dire telles qu'elles sont, mais ce qui est très difficile, eh bien, nous les recouvrons de nos théories, nous les recouvrons en particulier de nos mots. Bergson va avoir cette phrase assez belle en disant que le mot est brutal et que le mot va en quelque sorte écraser les impressions fugitives de notre conscience. Les mille impressions fugitives, les nuances de notre vie intérieure sont comme écrasées par le mot, par l'étiquette, tristesse par exemple, ou par l'étiquette joie que je mets dessus. Et donc ça, dit Bergson, c'est tout à fait dommageable. Il nous faut revenir en deçà des interprétations que notre entendement donne des faits de conscience, et en deçà redécouvrir ces sensations, ces émotions telles qu'elles se donnent dans leur originalité propre. Donc on voit déjà, c'est ce qui c'est, quelque chose qui sera une constante du bergsonisme, à savoir cette opposition entre la réalité, ici la réalité intérieure, et le langage. Le langage, lui, est social, il est commun, c'est le même pour tous, Et donc forcément, il va être, pour une part, inadéquat à ce qu'il y a de singulier, à ce qu'il y a d'original dans la réalité propre. Ça, c'est quelque chose de très frappant chez Bergson. La généralité du langage fait qu'il n'est pas adapté, il n'est pas adéquat à l'originalité, à la nouveauté, à l'imprévisibilité de la réalité dans son unicité. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est le premier chapitre sur l'intensité des sensations. Dans le deuxième chapitre, Bergson a cette idée très forte. Il applique ça au temps et il dit que finalement notre problème, c'est que nous spatialisons le temps. Lorsque nous représentons le temps, nous le représentons comme une sorte de ligne et nous imaginons que chaque instant est un point, en quelque sorte, de cette ligne et que mis bout à bout, il forme la ligne du temps. Ça, c'est la manière que nous avons de nous représenter le temps de manière linéaire parce que nous l'avons d'abord préalablement spatialisé pour le penser. Or, dit Bergson, il ne faut pas penser le temps comme une série de parties distinctes, juxtaposées, c'est-à-dire de points qui seraient les uns à côté des autres et qui seraient juxtaposés dans l'espace comme le sont les points dans un espace géométrique. Mais il faut au contraire penser le temps comme un entremêlement de parties. Une sorte de les parties ne sont pas distinctes et juxtaposées les unes à côté des autres, mais les parties du temps sont entremêlées, sont fondues, les unes dans les autres, s'interpénètrent, dit aussi Bergson, et cela forme la durée. Ça, c'est le grand concept de Bergson, la grande idée de Bergson, c'est que nous vivons dans une durée. Et une durée, c'est quoi? C'est pas des instants juxtaposés, mais c'est vraiment un entremêlement, une fusion de différentes parties qui forment une continuité. Bergson oppose à la juxtaposition des points qui en fait eux sont discontinus, il oppose la continuité de notre durée, le fait que nous vivons dans la manière dont nous nous rapportons au temps, le temps de notre conscience, la temporalité de l'homme, c'est une durée, c'est-à-dire un flux continuel, un flux où les parties, certes on peut distinguer des parties, mais ce ne sont pas des parties qui seraient extérieures les unes aux autres, mais ce sont des parties au contraire qui s'interpénètrent les unes avec les autres. Donc ça c'est la grande idée bergsonienne du temps, de la durée. Il ne faut pas spatialiser le temps, il ne faut pas l'imaginer comme un certain nombre de points juxtaposés, mais comme une continuité faite de mille données de la conscience, de mille impressions, de mille sensations, de mille émotions qui s'interpénètrent les unes aux autres, et chaque modification implique une modification du tout. Ça, c'est dans le deuxième chapitre. Et le troisième chapitre, c'est un grand chapitre sur la liberté. Bergson va reconquérir, on pourrait dire, la liberté qui avait été mise à mal par le mécanisme, parce que le mécanisme, par définition, explique chaque chose chaque événement l'explique par ses causes antérieures, et donc ramène la nouveauté à, en fait, de l'ancien, à une combinaison de causes anciennes, ce qui semblait ruiner la liberté et laisser place au contraire au déterminisme le plus strict, puisque l'acte nouveau que je ferai en fait ne serait pas nouveau, puisqu'il serait déterminé par un certain nombre de causes antérieures. Pourquoi est-ce que j'achète tel éclair au chocolat à la boulangerie? Bah parce qu'en fait, il y aurait un certain nombre de causes qui expliqueraient ce choix, ce ne serait pas du tout un choix libre. Donc ça, c'est une chose assez importante. Bergson va reconquérir la liberté en s'appuyant sur la conscience que nous avons de cette liberté, et il va dire que en fait nous avons une capacité de faire des actes nouveaux, des actes imprévisibles, des actes libres, et l'acte libre ce sera celui qui m'exprime tout entier. Il y a vraiment un fait pour Bergson de la liberté, et ainsi nous sortons de ce déterminisme, nous expérimentons que nous sommes capables de nouveautés, capables de faits, d'actes qui m'expriment moi-même, qui certes viennent de moi, donc ont une certaine source, mais qui en même temps me dépassent et ajoutent à la réalité du monde, ne sont pas réductibles à des choses antérieures. Nous faisons une très courte pause et nous nous retrouvons pour continuer à réfléchir sur cette philosophie de Bergson.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes toujours dans le monde de la philosophie, nous parlons aujourd'hui de Bergson. Je vous rappelle, comme vous venez de l'entendre, que la Radio Courtoisie ne vit que de dons. Donc, n'hésitez pas à être généreux si vous souhaitez que nous puissions continuer nos activités et continuer aussi au développement, au florissement de la radio. Donc nous revenons sur Bergson, nous avons parlé de ce premier livre, L'essai sur les données immédiates de la conscience, qui réhabilite d'abord la qualité, ensuite la durée et enfin la liberté. Trois chapitres qui révolutionnent, peut-on dire, la philosophie, en tout cas à cette époque, sont vraiment reçus comme une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène, c'est ainsi que beaucoup en parleront, parce que cette philosophie va nous rendre capables de faire de la métaphysique, disons, en tout cas de dépasser les sciences dans leur déterminisme trop étroit. La philosophie, avec Bergson, redevient capable de parler de la vie intérieure, redevient capable de renouer avec un contenu spiritualiste, un esprit, une liberté, une qualité et puis une durée. Bergson va continuer son œuvre en 1896, donc 7 ans après. Il prend son temps pour écrire un nouveau livre qui s'appelle Matière et mémoire. Matière et mémoire, donc il a aussi part vraiment de données psychologiques. Bergson dialogue beaucoup avec les psychologues de son temps. C'est une discipline qui naît à cette époque-là et qui est très très dynamique. Il citera quelques moments Freud, mais il y a d'autres penseurs importants, on pense à Ribot par exemple, que Bergson va beaucoup discuter dans Matière et mémoire. L'idée, la grande idée, pour résumer un petit peu Matière et mémoire, donc c'est de... Il va partir d'une étude du rapport entre perception et mémoire. Lorsque nous percevons, en réalité, il y a toujours une part de souvenir. Il y a toujours un appel au souvenir qui va faire que nous allons reconnaître la chose que nous percevons. Si vous, en réalité, dit Bergson, la perception pure et simple, la perception vraiment dans toute sa nudité, elle nous fait connaître le réel, elle nous fait atteindre le réel, mais elle ne nous permet pas de l'interpréter. Pour interpréter, pour comprendre ce que nous percevons sensiblement, il nous faut faire appel, dit Bergson, à notre mémoire, ou plutôt spontanément, nous faisons appel à notre mémoire. Je vous donne un exemple, vous êtes dans la rue, vous voyez, en fait, ce que vous allez percevoir à ce moment-là, c'est quoi? C'est par exemple une tache de couleur qui bouge. Ça, c'est la perception pure telle qu'elle se donne à vous. Sauf que, en fait, vous immédiatement, voyant cette tache de couleur, vous savez, vous comprenez qu'il s'agit d'un chien qui marche, par exemple, qui court vers vous. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette perception? Il y a une part de perception pure, purement visuelle, mais il y a au même moment, dans le même acte, un apport de la mémoire qui se souvient que vous avez déjà vu ce genre de tache de couleur et que c'était un chien. Et ainsi, la mémoire va nous permettre de connaître ce que nous percevons. Si nous n'avions qu'une perception pure sans mémoire, jamais nous ne saurions de quoi il est question, puisque nous serions livrés à la pure perception, sans profondeur, sans capacité de nommer et de reconnaître de ce fait ce que nous percevons. Donc finalement, dans notre mécanisme normal de connaissance quotidien, eh bien, il y a cette interaction entre la perception et la mémoire. Et Bergson va jusqu'à dire que la mémoire tient en fait beaucoup plus de place que la perception pure. Il donne un exemple qui me semble très parlant, c'est celui de la lecture. Bergson dit en fait quand nous lisons, qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons un texte, alors il y a bien une part de perception, mais cette part de perception en fait elle est très restreinte. Simplement, nous ne percevons même pas l'ensemble des boucles qui forment les lettres d'un mot, mais nous percevons simplement quelques traits de ce mot, nous percevons quelques traits assez typiques, et immédiatement nous interprétons, notre mémoire nous suggère qu'en fait il s'agit de tel mot, et notre mémoire reconnaît à partir de bribes de perception, de bribes du mot que la perception nous donne, nous reconstituons le mot à l'aide de notre mémoire. En fait, nous, si nous lisons par exemple le mot symbole, en fait, nous reconnaissons peut-être cette forme du Y, la manière dont le B remonte un petit peu, nous voyons la taille du mot, bref, nous saisissons comme ça, en un clin d'œil, quelques aspects du mot, sans que nous ayons à analyser chacune des lettres, mais voilà, nous saisissons ça, et notre mémoire nous suggère ce qu'est ce mot, et ainsi nous le reconnaissons. Donc finalement, la mémoire joue un rôle bien plus important, finalement, que la perception. C'est par la mémoire que nous reconnaissons ce que nous percevons. Ça, c'est la première chose importante de matière et mémoire. La deuxième chose, c'est dans son étude donc, de ce rapport entre la mémoire et la perception, il va montrer que la mémoire, au fond, puisqu'elle est autre que la perception, la mémoire ne relève pas de la matière. Et donc, il y a, thèse importante, une réalité de l'esprit. La mémoire, c'est en quelque sorte la part spirituelle de notre être. Il y a bien sûr un certain nombre de mécanismes cérébraux que la science peut observer et qui jouent bien sûr, mais Bergson, en partant d'un cas particulier, va montrer que finalement notre mémoire n'est pas d'abord quelque chose de cérébral, mais est d'abord quelque chose de spirituel, quoiqu'elle ait un support cérébral. Mais il va partir d'un exemple qui est celui de l'aphasie, cette maladie qui nous fait perdre nos mots, précisément, et il va montrer que l'aphasie, finalement, on ne trouve pas dans les études des cerveaux, hein, des aphasiques, une stricte correspondance entre telle partie du cerveau et l'oubli, la perte de mémoire de tel type de mots, de telles idées. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de parallélisme psychophysique. Ça, c'était une des grandes thèses de l'époque. Beaucoup de psychologues pensaient qu'il y avait un parallélisme psychophysique et que, à terme, si nous étudions le cerveau, si nous observions le cerveau de quelqu'un, nous pourrions quasiment savoir à quoi il pense. Tous les faits de conscience seraient traductibles dans cette hypothèse psychophysique. Serait traductible en mécanismes cérébraux. Et bien Bergson dit que non, parce que l'aphasique, en fait, certes, il n'arrive pas à reconnaître, mais pourquoi ? C'est d'abord un problème d'utilisation des souvenirs. Finalement, l'action ne parvient pas, il n'y a plus la liaison qui s'opère normalement entre l'action et cet appel à la mémoire qui va entraîner que la mémoire se mette en activité et nous permette d'agir. Ce qui est lésé chez l'aphasique, dit Bergson, c'est pas d'abord sa mémoire, c'est d'abord sa capacité à utiliser sa mémoire pour agir. C'est plutôt une maladie de l'action, finalement, qu'une maladie de la mémoire proprement dite. Et donc cela signifie que finalement, la mémoire est irréductible à simplement le cerveau humain. Il y a bien une correspondance partielle, il y a bien le cerveau sert bien de support tout de même à la mémoire, mais il n'y a pas de strict parallélisme psychophysique. Il n'y a pas de strict parallélisme entre la mémoire et le cerveau humain. Et une autre conséquence également de cette grande idée, ce sera pour Bergson, que finalement, nous sommes d'abord faits pour l'action, et pas d'abord pour la connaissance. Ne va filtrer du passé, ne va parvenir présentement à ma conscience de mon passé, que ce qui est utile à l'action. Notre mémoire est par définition sélective, il n'y a pas tous nos souvenirs passés qui se ramènent à nous, heureusement, sinon nous serions submergés, nous ne pourrions plus agir, précisément, dit Bergson. Mais ne nous revient de la mémoire que ce qui est utile à notre action. Par exemple, là, je fais une émission, je vous parle de Bergson, et bien, puisque j'agis en parlant et en devant parler de Bergson, ma mémoire se souvient de ce qu'elle connaît de Bergson. Donc, c'est l'action qui va expliquer que tel ou tel souvenir, finalement, nous revienne. Et donc, c'est puisque nous agissons que nous ne sommes pas envahis par tout notre passé. En droit, dit Bergson, tout notre passé est conservé dans notre mémoire. Simplement, nous n'avons pas, généralement pas, l'occasion de le ressusciter. Mais que telle ou telle exigence de l'action se présente, eh bien, tel ou tel souvenir se présentera également avec. Si au contraire nous n'avions pas cette exigence d'agir, dit Bergson, nous serions une sorte de rêve permanent, nous serions dans la mémoire pure. Et nous n'agirions évidemment pas. Voilà, donc ça c'est matière et mémoire. Ensuite, en 1903, Bergson publie une introduction à la métaphysique, hein, voilà, un article dans la revue de métaphysique et de morale, une introduction à la à métaphysique, qui va être extrêmement célèbre parce qu'elle va comme vulgariser, ou en tout cas donner le cœur de sa pensée. L'essai sur les données immédiates de la conscience, matière et mémoire, sont des livres lisibles, mais techniques, assez parfois difficiles. Introduction à la métaphysique, ce sera vraiment la version grand public, si je puis dire, de Bergson, qui va immédiatement se répandre et vraiment être très connue, va être beaucoup traduite. Dans cette introduction à la métaphysique, Bergson va distinguer entre analyse et intuition. Ça, c'est un élément aussi important de la philosophie de Bergson. Nous pouvons analyser les choses ou nous pouvons, au contraire, nous rapporter à elles par une intuition. Je vous lis un texte de cette introduction à la métaphysique. Il est toujours bon de lire un petit peu de Bergson, parce que c'est un grand écrivain. N'oublions pas qu'en 1926, il reçoit le prix de Nobel de littérature. Alors, parce qu'il n'y a pas de prix de Nobel de philosophie, mais aussi parce que vraiment, c'est un grand écrivain. Donc, dans l'introduction à la métaphysique, Bergson dit la chose suivante en distinguant analyse et intuition. Il écrit la chose suivante. Un absolu ne saurait être donné que dans une intuition, tandis que tout le reste relève de l'analyse. Nous appelons ici intuition la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable. Au contraire, l'analyse est l'opération qui ramène l'objet à des éléments déjà connus, c'est-à-dire communs à cet objet et à d'autres. Analyser consiste donc à exprimer une chose en fonction de ce qui n'est pas elle. Toute analyse est ainsi une traduction, un développement en symbole, une représentation prise de points de vue successifs, d'où l'on note autant de contacts entre l'objet nouveau qu'on étudie et d'autres que l'on croit déjà connaître. Dans son désir éternellement inassouvi d'embrasser l'objet autour duquel elle est condamnée à tourner, l'analyse multiplie sans fin les points de vue pour compléter la représentation toujours incomplète, varie sans relâche les symboles pour parfaire la traduction toujours imparfaite. Elle se continue donc à l'infini. Mais l'intuition, si elle est possible, est un acte simple. Vous voyez donc l'opposition que trace ici Bergson entre d'une part l'intuition, qui elle se transporte, comme il dit, à l'intérieur de l'objet, coïncide avec l'objet dans son unicité, et l'analyse qui reste extérieure à l'objet et donc qui va simplement le comparer avec d'autres qui lui ressemblent, mais qui ne sont pas lui, et donc va inévitablement le ramener à des choses déjà connues, des choses anciennes, et donc des idées toutes faites. Et quand bien même on multiplierait les analyses, on multiplierait les points de vue faits sur la chose, jamais on ne parviendra à connaître la chose de l'intérieur comme le fait l'intuition. La méthode donc en métaphysique, dit Bergson, doit être l'intuition. Par l'intuition, nous atteignons l'absolu, nous atteignons la chose telle qu'elle est en elle-même, et non simplement une analyse qui resterait extérieure. Cette critique de l'analyse est aussi une critique du concept, puisque Bergson va dire que finalement nos concepts sont toujours communs, sont toujours généraux, et on aura beau multiplier les concepts, on aura beau aligner les concepts les uns à côté des autres pour tâcher de décrire une chose, cela restera approximatif, cela restera au mieux asymptotique, mais jamais nous ne rejoindrons la chose de l'intérieur comme le ferait l'intuition. Il faut se garder, dit-il donc, de recomposer en quelque sorte la chose à partir des concepts que nous avons abstraits de cette chose. Par exemple, si je travaille sur, par exemple un arbre, j'aurais beau utiliser un certain nombre de concepts, de mots pour le décrire, jamais je ne parviendrai à le dire intégralement, à le dire tel qu'il est, dans son unicité. Je vous cite là encore un passage où Bergson montre la limite des concepts, la limite de la capacité des concepts à dire le réel. Les concepts sont approximatifs, les concepts ne vont pas permettre d'atteindre vraiment un absolu. Bergson écrit la chose suivante. L'inconvénient des concepts trop simples est d'être véritablement des symboles qui se substituent à l'objet qu'ils symbolisent et qui n'exigent de nous aucun effort. En y regardant de près, on verrait que chacun d'eux ne retient de l'objet que ce qui est commun à cet objet et à d'autres. On verrait que chacun d'eux exprime, plus encore que ne le fait l'image, une comparaison entre l'objet et ce qui lui ressemble. Mais comme la comparaison a dégagé une ressemblance, comme la ressemblance est une propriété de l'objet, comme une propriété, a tout l'air d'être une partie de l'objet qui la possède, nous nous persuadons sans peine qu'en juxtaposant des concepts à des concepts, nous recomposerons le tout de l'objet avec ses parties et que nous obtiendrons, pour ainsi dire, un équivalent intellectuel. C'est ainsi que nous croirons former une représentation fidèle de la durée en alignant des concepts d'unité, de multiplicité, de continuité, de divisibilité finie ou infinie, etc. Là est précisément l'illusion. Là est aussi le danger. Autant les idées abstraites peuvent rendre service à l'analyse, c'est-à-dire à une étude scientifique de l'objet dans ses relations avec tous les autres, autant elles sont incapables, ces idées abstraites, de remplacer l'intuition, c'est-à-dire l'investigation métaphysique de l'objet dans ce qu'il a d'essentiel et de propre. Ces concepts mis bout à bout ne nous donneront jamais qu'une recomposition artificielle de l'objet, dont ils ne peuvent que symboliser certains aspects généraux et en quelque sorte impersonnels. C'est donc en vain qu'on croirait avec eux saisir une réalité dont ils se bornent à nous présenter l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'avez compris, nos concepts sont les outils normaux de notre connaissance, mais ces concepts, malheureusement, sont trop courts parce qu'ils sont trop généraux. Ils nous font atteindre, certes, l'objet, mais sous le rapport de ce qu'elle a de commun, de semblable aux autres, et non pas dans ce qu'elle a d'original, de propre. Et donc, il faut se garder de multiplier les concepts. En même temps, c'est la seule manière que nous avons de connaître, hein, mais il faut se garder de multiplier les concepts en croyant que ainsi nous attendrons exhaustivement l'objet. La vraie manière d'atteindre l'objet dans son exhaustivité, dans son unicité, dans sa simplicité, c'est l'intuition qui nous transporte à l'intérieur de l'objet. Voilà, donc ça, c'est un trait assez important de la philosophie de Bergson. Cette insistance sur les limites de notre langage, les limites de notre connaissance, la transcendance en quelque sorte de la réalité par rapport à ce que nous pouvons en connaître par nos concepts. Alors certes, il y a cet opérateur mystérieux de connaissance qui est l'intuition, mais l'intuition précisément ne peut pas se traduire en mots. L'intuition est ineffable, elle nous fait connaître de l'intérieur, elle nous fait sentir, elle nous fait expérimenter l'objet en question, la chose, mais nous ne pouvons pas en faire une théorie, nous ne pouvons pas la communiquer, nous ne pouvons pas parler de cette expérience intuitive que nous avons faite de la chose. Donc ça, c'est quelque chose à mon avis fondamental chez Bergson, cette grande critique du langage, paradoxal évidemment pour un philosophe, puisque la matière même du philosophe, c'est le langage, en tout cas c'est son moyen d'expression. Mais en tout cas, dit Bergson, les mots resteront trop courts. Il valorisera un petit peu plus l'artiste dans le rire, notamment il développe toute une théorie de l'art. Il dit que les grands artistes parviennent à soulever le voile de la nature, le voile aussi de notre perception sélective et utilitaire, et nous font voir la réalité dans toute sa profondeur. Ce qui est possible, évidemment, je ne le nie pas, mais le philosophe, lui, a toujours cette limite congénitale, en quelque sorte, de ne parler qu'avec des mots qui appartiennent à tous, alors que la chose, elle, est unique. En 1907, Bergson publie L'évolution créatrice, grand livre. L'évolution créatrice, c'est, on pourrait dire, la cosmologie de Bergson, vraiment son étude du système du monde. Il explique vraiment ce qu'est la vie, la réalité, la matière. C'est aussi, cette cosmologie est aussi une cosmogonie, c'est-à-dire il va expliquer comment est-ce que tout s'est formé. Donc c'est en cela que ce livre porte bien son titre, d'évolution créatrice. Pour lui, la vie, ou l'élan vital, comme il l'appelle, expression qui est devenue assez célèbre, la vie est un élan vital, un jaillissement, une continuité. Cette vie a différents destins. Cette vie, elle essaye, elle tente, elle travaille, elle se répand, elle se diffuse. Parfois, elle se refroidit. C'est comme une sorte de matière en fusion, une lave en fusion qui se refroidirait. Et cela donne lieu à la matière, inorganique, qui est donc comme un refroidissement de cet élan vital. Parfois, au contraire, cet élan vital réussit à donner des réalisations plus hautes, telles que le vivant, telles que aussi les animaux. Et l'homme est comme le sommet de l'élan vital. L'élan vital s'est prolongé jusqu'à l'homme. et continue d'ailleurs de travailler par cet homme. Donc ça, c'est la grande idée de Bergson. Au principe, il y a vraiment un élan vital, un jaillissement, comme il le dit, qui procède, qui parfois est en échec, et dans ce cas-là, on retombe dans la matière. Parfois, au contraire, il y a comme un saut, un dépassement, un davantage. Et ça, cela donne lieu à davantage de liberté, davantage d'imprévisibilité, de nouveauté. Voilà, donc il y a une forme d'opposition de valeurs. Quoi. D'un côté, la matière, qui elle est vraiment du côté du statique, du mort en quelque sorte. Et de l'autre, la vie, qui a sa spiritualité propre, qui a son élan, son dynamisme propre, et qui donc est du côté, lui, plutôt le côté positif, on pourrait dire le bon côté, le côté de l'énergie, le côté de la vie. Ouais, donc ça, c'est la grande cosmologie que construit Bergson, une cosmologie scalaire, par échelle. Il va passer en revue les différentes grandes réalisations, les différents grands règnes de la nature que l'élan vital a produit. Et puis il va aussi critiquer à la fois le mécanisme et le finalisme, deux grandes théories d'explication. Dans les deux cas, dans le cas du mécanisme et du finalisme, en fait, dit Bergson, il y a une forme de réduction de la nouveauté à de l'ancien. Au contraire, ce que Bergson présente, donc sa philosophie de la vie, on pourrait dire, implique que la vie soit toujours imprévisible, ne puisse pas être déterminée a priori. On ne sait pas ce que donnera la vie, parce que on ne sait pas ce que cet élan vital créera. Il y a une véritable créativité de la vie qui ne peut pas être a priori connue, qui ne peut pas être prévue. Et donc Bergson s'oppose à toute forme de réduction de cet élan vital créateur et novateur à un calcul qui pourrait déterminer ce qu'il donnera. Au contraire, on ne sait pas ce que la vie donnera. Et enfin, je finirai avec le livre de 1932, très très attendu, Les deux sources de la morale et de la religion. Personne ne s'était jamais vraiment prononcé sur la morale ni sur la religion. Dans l'évolution créatrice, il allait vers une certaine pensée de Dieu, mais Dieu conçu plutôt comme élan vital, justement. Et on n'était pas certain que Dieu soit vraiment transcendant, soit vraiment au-delà de cette créativité de l'élan vital. En 1932, Bergson reprend donc les problèmes religieux. Il fait une étude vraiment positive de la morale et de la religion. Il va faire une explication naturelle de la religion. Il va dire que la religion, c'est un moyen que la nature a trouvé pour que l'homme ne soit pas déprimé par la connaissance de sa mort à venir. Et l'homme a cette capacité, cette fonction fabulatrice, dit-il, d'inventer des mythes qui l'aident à vivre. Et donc c'est très positif pour Bergson. Si finalement, en fait, du fait que nous sommes intelligents, nous savons que nous allons mourir, et cela nous fait perdre en quelque sorte l'élan vital et nous fait quasiment devenir des morts vivants, en tout cas nous déprime. C'est vraiment le terme que Bergson utilise, déprime au sens de nous fait un creux d'énergie. Et c'est pour ça que la nature, enfin en tout cas Bergson fait une explication naturelle de la religion, la nature va au contraire donner cet élan de fabulation, cet élan d'invention qui va faire croire à l'homme qu'il y a une vie après la mort et ce qui va lui rendre possible sa vie ici-bas. Donc en quelque sorte la religion est davantage le fruit de l'instinct que de l'intelligence. L'intelligence, elle nous fait voir notre mort, l'instinct au contraire lui, nous fait concevoir un certain nombre de mythes qui contrebalancent cette conscience de notre mortalité et ainsi nous rend, on pourrait dire, la joie et l'espérance. Ça, c'est la religion statique pour Bergson, mais à côté, dit Bergson, il y a la religion dynamique. La religion dynamique, il la voit en particulier à l'œuvre chez les grands mystiques, en particulier les mystiques chrétiens. La religion dynamique, elle, au contraire, c'est vraiment être traversé par l'élan vital. C'est vraiment être saisi par quelque chose de divin, quelque chose une joie particulière, un amour particulier. Et le mystique est comme plongé intuitivement dans la force de l'élan vital, qui est vraiment quelque chose de divin. Le fruit de cette expérience mystique, ça va être une action débordante, ça va être une générosité infinie, ça va être un amour immense. Ça, donc Bergson le voit à l'œuvre chez Jésus-Christ, puis chez les grands mystiques chrétiens, aussi chez certains mystiques non chrétiens. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que le christianisme est une religion dynamique, une religion de l'élan, une religion qui va loin, procède d'une illumination, procède vraiment d'une forme de grâce, d'un courant d'amour, et va le prolonger, le diffuser, et va donner lieu à tout un tas de réalisations exceptionnelles à l'œuvre chez les grands mystiques. Donc ça, c'est une de ses grandes idées. Il a plus de difficultés, on pourrait-on dire, avec la religion institutionnelle. Pour lui, les institutions, les dogmes sont davantage une retombée de cet élan vital que les mystiques expérimentent. Une sorte de cristallisation, de refroidissement de cette coulée, de cette énergie première. Voilà, donc nous avons parcouru, évidemment rapidement, hein, mais cette philosophie de Bergson dans ses grandes lignes, dans ses grands traits. J'espère que cela vous a nourri, vous a intéressé. Ça reste un grand philosophe, je pense, qui n'a pas perdu dans son actualité, qui n'a pas perdu de sa vigueur, qui peut continuer aujourd'hui à nous faire penser. Voilà, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette étude, cette méditation sur Bergson vous a intéressé. Et je vous dis à dans un mois. À bientôt.
Vous venez d'entendre Le Monde de la Philosophie, dirigé par Élie de Thoras, émission préenregistrée le 16 février 2026 et diffusée pour la première fois lundi 2 mars 2026 de 10h à 11h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.